Monsieur Champel. Il est des solitudes à deux, pire que la solitude dans une pièce vide. Le hasard m'a rendu témoin de l'une d'elles pendant une heure. J'ai ramené dans ma découverte un tel effroi que Mademoiselle Gauche me paraît aujourd'hui avoir été privilégiée. Vers 1890, je venais de terminer mon service militaire et m'étais installé provisoirement à Dijon chez ma sœur Lucie. Celle-ci avait alors 30 ans ou environ, et, vieille fille, semblait décidée à le rester. La rentrée dans une ville quittée au seuil de l'adolescence produit toujours un effet d'intense dépaysement. Au départ, on était un gamin, le décor où l'on jouait, demeuré à l'échelle des visions enfantines, avait pris dans le souvenir des dimensions et une animation prodigieuses. Mais au retour, tout se ramène à la modestie réelle. Les camarades sont dispersés et la rue vous accueille en étranger. La pression fut pour moi d'autant plus vive qu'ayant décidé de repartir presque aussitôt, je ne me souciais pas de renouer avec les relations de ma famille. S'il m'arrivait parfois de retrouver des noms connus au cours de mes entretiens avec Lucie, je n'y attachais qu'un intérêt médiocre et me tirais de leur appel qu'une plus grande mélancolie. Un matin de décembre, Lucie me dit « Aujourd'hui, je te demanderai d'accepter une corvée. » Je répliquai, surpris du ton gêné qu'elle avait pris, « Et de quoi s'agit-il ? » De m'accompagner chez les Champel. Des Champel, au vrai, je conservais d'une mémoire assez vague. Ils m'avaient paru jadis très âgés, et d'autant plus ennuyeux qu'ils habitaient une maison d'aspect solennel, la seule à cette époque qui fut agrémentée d'une serre. Est-ce vraiment utile ? Demandai-je, médiocrement ravi par la perspective. « Figure-toi, répondit Lucie un peu embarrassée, qui se sont mis en tête de me présenter un parti. Je serai contente d'avoir ta compagnie pour affronter le danger. »« Et quoi, tu songes enfin à te marier ?» N'ai jamais prétendu, j'en avais pas le désir. Seules les circonstances ont décidé autrement jusqu'ici. « Eh bien, va pour la tentative, m'écriai-je gaiement. » Et nous n'en parlâmes plus jusqu'à l'heure du départ. Au surplus, je suppose que l'aventure ne troublait pas ma grande sœur plus que de raison, car lorsque nous sortîmes, je m'aperçus qu'elle avait conservé sa toilette habituelle. Elle était d'ailleurs charmante ainsi. Chemin faisant, nous bavardâmes de choses et d'autres. Puis, comme la route est longue de la place d'arrêt au cours du parc, j'eus l'idée d'interroger Lucie sur les Champel. Comment sont-ils encore de ce monde? Je les croyais déjà centenaires quand j'étais petit. Oh, tu ne les trouveras pas changés, dit Lucie en souriant. Ne s'occupant que d'eux-mêmes, aucun souci ne les atteint. L'égoïsme conserve. Et alors leur âge? « Oh, monsieur a 68 ans, pas plus. »« Et madame, 62 ou 63. »« Ont-ils toujours une serre ?»« Toujours. »« Et pourquoi, passionnés pour les fleurs et riches comme ils le paraissent, ne sont-ils pas installés plutôt dans une belle campagne de leur choix ?» « Évidemment, cela paraît étrange, mais si ce que l'on prétend est vrai... »« Quoi ? Ben, ils auraient tout mis à fond perdu et ne disposeraient d'aucun capital. »« Et comme famille ? Aucune. »« Ah, c'est pour cela qu'ils s'occupent de mariage. »« Peut-être. Et ils vivent ainsi depuis... »« Oh, je les ai toujours vus. » Jadis, monsieur était notaire à Sauvernon, mais cela remonte à mon enfance. Et Lucie conclut. Après tout, de bonnes gens ayant trouvé peut-être le secret du bonheur dans une ambulance artificielle qui ne gêne personne. Tandis que nous devisions de la sorte, nous n'avions pas songé à nous apercevoir du froid particulièrement vif ce jour-là. Mais une fois à l'entrée du parc, nous fûmes accueillis par une bise tout à fait désagréable. « Attendons-nous, » dit Lucie. Et nous voici enfilant à grande allure le ruban de route qui restait, ne songeant qu'à hâter notre course, et le visage coupé par le vent, tandis qu'alentour tourbillonnaient les premiers flocons de neige, messagers d'un hiver agressif. Comme il y avait alors peu de maisons le long du parc, on apercevait au loin la campagne glacée et, à perte de vue, un ciel couleur de suie. Inutile d'ajouter qu'il n'y avait point de promeneurs. Rien de vivant, devant ni derrière nous, sauf précisément à la hauteur de la maison Champel, une silhouette noire accroupie sur un banc. Pour être exact, je dois avouer que nous ne la remarquâmes pas tout de suite. De loin, on pouvait croire que c'était un vêtement oublié, une caisse, enfin n'importe quoi. Enfin, la pensée que ce fût un être humain n'effleurait même pas. Cependant, il fallut bien reconnaître en approchant que le paquet bougeait. Puis, à mesure que nous distinguions mieux, nous éprouvâmes une véritable stupeur. Une femme grelottait là, sans manteau, et l'air d'une morte. De plus, chose terrible à penser, elle tenait sur ses genoux un mioche, bleui de froid, n'ayant plus la force de se plaindre. « Mon Dieu !» fit Lucie, « quels sont ces moribonds ?» Je dis à mon tour, « On ne peut pas les laisser ainsi !» Lucie réfléchit une seconde. « Avant tout, réchauffez l'enfant. Dépêchons-nous de sonner. On demandera le nécessaire aux Champel, nous aviserons ensuite. » C'était raisonnable et pratique. Donc, plutôt que de prolonger le supplice des malheureux en les interrogeant, nous nous précipitâmes vers la maison et tirâmes en hâte la sonnette. On ouvrit. Aussitôt, nous gravissons le perron, nous pénétrons en trombe dans le salon où attendaient les Champel, et, sans même saluer, Lucie s'écrie « Vite, je demande la charité, qu'on me donne une tasse de lait chaud !» Avant d'aller plus loin, il n'est pas inutile de décrire la pièce où nous étions. Pas très vaste, mais hospitalière et assez luxueuse. Elle l'a frappée tout d'abord par son aspect volontairement neuf. Le parquet étincelait. Les cuivres avaient des reflets aigus, les bronzes un or plus vif qu'un magasin. Les meubles, cette terre d'emprunt qui semble leur venir quand on retire une fois par hasard la housse sous laquelle ils étouffent à l'ordinaire. Puis on ne remarquait plus que la lumière. Elle entrait à flot, car il n'y avait pas moins de 3 baies donnant sur le parc, sans compter une porte vitrée toujours ouverte qui faisait communiquer le salon avec la serre. Les baies étaient formées par 2 fenêtres et une glace sans tain établie au-dessus de la cheminée. Si j'ajoute que la cheminée elle-même était décorée de plantes vertes, que l'air venu de la serre était chargé de parfums, enfin que de grosses bûches brûlaient dans l'âtre, on sentira, je pense, l'effet violent produit par l'ensemble du décor sur des gens comme nous qui arrivaient bouleversés à la pensée de l'épave humaine échouée juste en face. Quant aux Champel, ils ressemblaient à leur salon. Ils reluisaient de jeunesse à grand renfort d'asticage. Eux aussi avaient l'air de sortir d'une housse. Monsieur, à peine grisonnant et teint avec modération, portait un veston d'une élégance intrépide. Riait-il, il apparaissait à un atelier bien fait. Marchait-il, sa raideur semblait moins le résultat des rhumatismes qu'une recherche distinguée. Il avait des yeux bleus et un sourire toujours à la disposition, qui finissait par être de la même couleur. Pour le surplus, une sorte d'usure sur les traits et la griffe des ans, qui affleure même sous les fards, une expression générale d'insignifiance. Je n'ai parlé que du mari, mais du même coup j'ai donné l'essentiel de la femme. Comme tous les couples sans enfants et que l'existence n'a jamais séparé, ils avaient fini par se ressembler. Si bien qu'à les regarder l'un et l'autre, encadrant le feu clair, l'idée s'imposait de deux reliques. On s'étonnait qu'ils fissent des gestes. On était sûr qu'ils tomberaient en poussière s'ils sortaient de leur écrin. Qu'on se représente maintenant notre entrée soudaine sans les protocoles d'usage et la requête de Lucie formulée dès le seuil, avec un air d'autorité impérieuse, on pressentira l'effet produit. Madame Champel ne prit même pas le temps de se lever et répéta, stupéfaite, « Une tasse de lait !» Il était clair à son accent qu'une telle dérogation aux usages ne frisait rien moins que l'anarchie. Tout dans la maison Champel devait être déjà combiné, ordonné, réglé d'avance. Le thé et les gâteaux allaient paraître à 4 heures, parce que la veille ou le matin, on avait ainsi décidé. Mais comment se procurer dès 3h30 une tasse de lait quand cela n'était ni prévu ni décidé ? Oui, une tasse de lait, affirma de nouveau Lucie, sans s'arrêter au ton désapprobateur de Madame Champel. Mais pourquoi, qu'avez-vous ? S'exclamait à son tour Monsieur Champel. Oubliant les compliments habituels, il venait de se lever d'un jet, dont sans retenir un petit « aïe » dû à la brusquerie du mouvement. Lucie se dirigea vers l'une des croisées pour s'assurer que la femme était toujours à la même place. « Il y a là, dit-elle, un enfant qui se meurt. Oh mon Dieu !» Ce fut une double exclamation. Mais comment rendre ce qui était en elle de détachement et de condescendance ? On dit ainsi « Ah, mon Dieu !» à la lecture d'un fait divers, terrifiant, survenu en Océanie. En l'entendant, il m'apparut avec une évidente certitude que les Champel n'éprouvaient surtout le désir violent de ne pas voir la chose et d'en rester loin, tout à fait loin. « Madame !» poursuivit en soupirant, « c'est pour lui que vous demandez du lait. Évidemment, je vous affirme qu'il se meurt de faim ou de froid. Bon, alors, je vais sonner Julie. De grâce, qu'on l'apporte tout de suite. Vous dites-vous que cet enfant, reprit M. Champel d'un ton peureux, là, sur le banc. » Du doigt, Lucie désignait le malheureux. Je m'étais aussi approché de l'autre fenêtre. « Là !» répétais-je. « Voyons !» dit M. Champel, penché à son tour, par-dessus la cheminée, vers la glace sans teint. Il ajusta son binocle avec un geste lent, et je répète que sa curiosité n'avait jamais marqué plus de politesse. Positivement, il n'allait examiner cela que pour nous être agréable. Sans notre entrée désordonnée, sans la contagion d'inquiétude qui émanait de ma sœur et de moi, sans doute n'aurait-il pas pu quitter son fauteuil que Madame Champel. Encore moins aurait-il fait le geste de rechercher un spectacle désagréable. Le nez armé, il jeta un rapide regard du côté de sa femme. Puis nous entendîmes le coup de sonnette qui appelait Julie, et qui tintait dans un silence extraordinaire. Puis, nous n'entendîmes plus rien, pas même les pas de Julie, car Julie, ne comptant jamais sur un appel intempestif, avait dû quitter sa cuisine. Quand je dis que nous n'entendîmes plus rien, je me trompe. On entendait M. Champel respirer, ou plutôt, on entendait qu'il ne respirait plus. À la lettre, son souffle faisait comme une pendule à fond de course. On croyait qu'il voulait sortir, mais la poussée du ressort était devenue trop faible et rien ne venait. Pourquoi Lucie et moi et Madame Champel eûmes-nous simultanément la sensation absurde, mais irrésistible, que M. Champel ne respirait plus ? Madame Champel dit brusquement « Hector, qu'avez-vous ?» Hector ne répondit pas. Il restait, les deux coudes appuyés sur le marbre et la tête enfouie dans les plantes vertes. Il n'avait pas l'air d'entendre. Il ne semblait pas non plus regarder. Qui sait si une attaque ne l'avait pas foudroyé? Peut-être ne demeurait-il debout que grâce à un fil invisible descendu du plafond. « Hector !» répéta Madame Champel. Aucune réponse encore. Seul le silence de la maison, ou plutôt du salon, parut devenir si lourd en vérité que ni ma sœur ni moi n'aurions osé bouger ni parler. Nous ne nous demandions pas ce qu'il y avait. Nous ne songions plus à réclamer le lait. Mais baignés dans une frayeur superstitieuse, nous étions à la recherche du souffle de M. Champel, qui avait dû s'envoler, on ne sait où, puisqu'on ne le percevait plus. Pour le coup, Mme Champel se leva. « Hector !» En même temps, elle s'approcha de son mari, lui saisit le bras, et j'eus peur qu'à ce simple contact, M. Champel ne s'affaissât par terre comme un ballon de baudruche dans lequel on pique une épingle. Mais ce fut autre chose qui survint, non moins extraordinaire. Les yeux de Madame Champel ayant suivi la direction de ceux d'Hector, nous la vîmes à son tour s'accouder au chambranle, cependant que là-bas, sur le banc, magnétisée par les regards fixés sur elle, la pauvresse levait aussi les paupières et découvrait derrière la glace, derrière les plantes vertes, les deux vieillards. Lucie vint vers moi. Sans rien deviner, puisque rien ne permettait de soupçonner le drame qui se passait, nous avions pourtant la certitude d'assister à une incroyable complication amenée par l'apparition de la femme et de l'enfant. Dans le silence qui continuait, je ne sais quoi de sacré était descendu. Nous étions vraiment devenus la proie de l'inconnu qui passe et qu'on ne voit pas, bien qu'on soit sûr d'en faire partie. Nous eûmes ensuite un grand frisson. Tout à coup, les Champel parlaient. Était-ce la gravité de l'heure ou le fait d'une attention exaltée au-delà du normal? En vain s'exprimait-il à voix basse, nous ne perdions pas un mot. Hector disait « Je la reconnais !» Madame Champel répondait « Pas moi ?» Il reprenait « C'est elle !» Elle répliquait « Non, mais je ne me trompe pas. Mais quand il s'agit d'elle, tu te trompes toujours. » D'ailleurs, ces lambeaux de farole ne tombaient qu'un à un. Ils produisaient sur le silence le choc mat et sourd que font les gouttes s'échappant d'un robinet mal fermé. Nous ne pouvions savoir ce qu'il signifiait, et nous en aurions crié. Soudain, un bruit aussi effrayant qu'un coup de tonnerre, Julie entrait enfin, non pour demander ce que madame désirait, mais pour annoncer le prétendant. Du coup, les Champel se redressent, galvanisés. En une seconde, ils sont redevenus lustrés, souriants, miraculeusement jeunes, et les exclamations commencent. « Ah, la bonne surprise! Permettez qu'on vous présente à notre charmante amie, Mademoiselle Revel, Monsieur Souvestre, inspecteur de l'enregistrement. » Un simple détail donnant la mesure de l'émotion du moment. Il est bien clair que pour venir, ce Souvestre avait dû passer devant la femme et le mioche et sonner. Personne ne l'avait vu ni entendu. Il surgissait dans le jeu à la manière d'un aérolite. Nous avions tous envie de le chasser, et ce fut probablement la raison pour laquelle ma sœur le jugea si durement. Pauvre diable, il n'était en somme ni mieux ni plus mal que bien d'autres. Ce n'était pas sa faute si son ventre était un peu bombé, ses cheveux un peu trop rares, si la gêne inévitable en ces sortes de rencontres immobilisait sur son visage je ne sais quel ahurissement assez proche de la sottise. Dans d'autres circonstances, Lucie aurait daigné sans doute l'examiner. et ne jeta pas même un regard vers lui. Avant que les champelles eussent seulement regagné leur place aux deux coins de la cheminée, ils purent être fixés sur le sort du candidat, car déjà elle annonçait le départ. « Quoi, sans même attendre le thé ?»« Oui, une obligation malheureuse de rentrer chez moi avant 4 heures. Rendez-vous impossible à éviter. » 10 minutes qui s'écoulent à gémir sur le contretemps en privant nos hôtes de notre présence, comme si déjà nous n'avions plus été là. Épuisés sans doute par leur effort pour bien accueillir l'importun, les champelles ne s'exprimaient plus que d'une voix lasse. Leurs mots semblaient littéralement jetés dans le silence, comme des poids dans un trou noir. Puis, je ne sais par quel détour subtil, M. Souvestre se trouve englobé dans la déroute. « Et vous aussi, cher monsieur, vous repartez ?» Abasourdi, sans doute, cependant, qu'il ne soit également chassé, celui-ci affirme à son tour que des occupations urgentes le réclament, salue un homme résigné à l'incompréhensible, s'évade même avant nous. Enfin, les champelles ferment leurs portes. Et nous voici dehors, Dieu merci, libérés du silence, de l'inexplicable, de tout ce qui a fait de cette visite à la fois une sotte corvée et un cauchemar. Ah, l'allégresse de se sentir dans la bise à l'air piquant, loin du mystère. On va donc retrouver la vie unie et la liberté d'être soi. Hélas, pour reconnaître qu'au contraire, tout commençait peut-être, nous n'eûmes qu'à regarder le banc. La femme y était toujours, s'obstinant à suivre avec des yeux hallucinés les reflets de la bonne flambée, près de laquelle devaient maintenant se tasser les champelles. L'élan coupé, incapable de nous éloigner en laissant là une pareille détresse, nous nous arrêtâmes aussitôt et attendîmes un long moment. Qu'espérions-nous? Je ne sais. Peut-être que les champelles reparaîtraient à leur fenêtre. Peut-être qu'ils enverraient la tasse de lait. Mais non, ceci était une impression aussi impérieuse qu'une évidence. On ne pouvait, on ne devait rien offrir à la malheureuse qui vint d'en face. Cependant, le temps passait. Il devenait impossible de remettre plus longtemps des secours nécessaires. Un besoin d'agir nous tira de notre torpeur. « Il faut faire quelque chose !» murmura Lucie. J'aperçus un fiacre et le hélai. « Soit, ben emmenons-les chez nous, on verra ensuite.
Oui, »« Oui, c'est cela. »
J'approchai de la femme. « Venez, lui dis-je. » Elle n'eut pas l'air de comprendre. Elle s'obstinait à contempler la fenêtre derrière laquelle personne ne paraissait. « Allons, répétai-je rudement, ne vous occupez plus de cette maison et tâchons de soigner l'enfant. » À grand-peine, je parvins à la hisser dans le fiacre. Lucie suivait, portant le mioche. Je donnai le signal du départ. La guimbarde s'ébranla. Mais tandis que le cheval faisait demi-tour, je crus reconnaître, derrière la glace sans teint, un visage bouleversé. Bon, illusion, certainement. D'ailleurs, qu'importe. L'enfant criait, j'avais bien autre chose en tête que d'approfondir si c'était M. Champel ou un jeu de lumière à travers les plantes vertes. Il est superflu de décrire le voyage qui suivit. Tandis que la voiture roulait, ma sœur et moi réfléchissions. Nous savions bien qu'il fallait sauver la malheureuse emmenée par nous. Mais, cela dit, nous n'imaginions pas comment. Impossible de la garder dans notre appartement, trop exigu, et d'ailleurs, installe-t-on chez soi une inconnue ramassée dans la rue. Alors, la munir d'un peu d'argent, et après l'avoir restaurée, la renvoyer au froid pour que tout recommençât. Autre solution inacceptable. Tant pis, l'heure venue, plus tard, on aviserait. À mesure qu'on approchait du but, La neige se faisait aussi plus dense et battait les vitres. On avait la sensation d'être surveillé par des milliers d'yeux accourus aux portières. Il en résultait une gêne bizarre qui achevait de nous désorienter. Recognée dans un angle et bouche close, la femme, elle, ne bougeait pas. On pouvait supposer qu'elle n'entendait pas les cris de l'enfant, qui déjà moins transi, braillait de peur ou de faim dans les bras de Lucie. Enfin, on arriva. Je demandai à la femme, « Êtes-vous en état de monter deux étages ?» Elle fit signe que oui. Lucie, portant toujours l'enfant, passa la première, et tant bien que mal, on parvint à la salle à manger. « Asseyez-vous, dit Lucie, je vais faire chauffer du bouillon et du lait. » Et elle se rendit à la cuisine pour commander le nécessaire. Ne sachant plus au juste que devenir, je me promenais dans la pièce. J'éprouvais à la fois une grande satisfaction d'avoir agi de la sorte, et un peu d'irritation parce qu'il ne semblait pas qu'on nous en fût reconnaissant. Acceptable au début, le silence de la femme commençait de prendre je ne sais quel air agressif qui m'agaçait. « Vous êtes du pays ?» demandai-je pour essayer d'échapper au désagrément de la situation. La femme ne parut pas m'entendre. « Où habitez-vous » repris-je avec une impatience visible. Cette fois, une réponse vint, parfaitement nette. « Cela ne regarde personne. » On avouera que ce n'était pas encourageant. Raison de plus pour m'obstiner. « Avez-vous un métier ?» Nouveau signe vague. « Des projets ?» Même signe incertain. « Enfin, que comptez-vous devenir ? Ce soir, où coucherez-vous ? » « Je ne sais pas, je verrai. » Je secouais les épaules et résumant ma déception. « Bigre, vous n'êtes pas loquace !» Mais aussitôt, les yeux de la femme reprirent la dureté qui m'avait frappé lorsqu'il considérait la maison des Champelles. « Je n'ai rien sollicité. J'ai le droit, je pense, de garder pour moi ce qui me plaît. Évidemment, mais ce que j'en disais était pour vous aider. Ben, ce qui aurait dû le faire. » La phrase s'arrêta en cours de route, trompa ma curiosité. « Vous comptiez sur quelqu'un ?» repris-je, décidé à en connaître plus. Malheureusement, Lucie rentrait au même instant, portant deux bols. « Ceci, d'abord, pour commencer !» s'écriait-elle gaiement. Dépité, je repris mon va-et-vient à travers la pièce, tandis qu'elle installait un vrai couvert, car, délicate surtout dans ses charités, elle ne voulait pas mettre de différence entre une pauvresse et nos autres coutumiers. Je continuai de marcher en observant la femme. Bien qu'elle fût certainement à jeun depuis la veille, elle mangeait sans hâte et avec aisance. N'eussent été ses vêtements et le désordre de ses cheveux, on l'aurait prise pour une mondaine en train de goûter. Elle en avait l'attitude et les gestes. Nous en étions là, une demi-heure à peu près venait de s'écouler, depuis notre retour, quand la sonnette retentit. Lucie aussitôt jeta à la domestique « Ne recevez pas, je n'y suis pour personne. » Un colloque assez long, suivi dans l'antichambre. Enfin la domestique revint. « C'est M. Champel qui attend monsieur au salon. » En bonne logique, j'aurais dû être surpris. Je ne m'étonnais pas. Il me semblait au contraire naturel que cet homme, quitté si peu de temps auparavant, et qui n'avait aucune raison connue pour revenir, se présentât chez moi précisément au moment où la femme que nous avions recueillie achevait son repas. Je déclarai « Bon, c'est bien, j'y vais. » « Que peut-il nous vouloir ?» interrogea Lucie inquiète. Bon, je l'ignore en tout cas, le plus simple est de le lui demander. J'allai ensuite vers la porte qui met en communication la salle à manger et le salon. Et j'eus tort, je l'avoue, de ne pas regarder une dernière fois la femme. Probablement, si je l'avais fait, j'aurais soupçonné en partie ce qui menaçait d'arriver. Mais il était écrit que les choses se passeraient de la sorte, et à quoi bon revenir sur des possibilités que la destinée a supprimées. Je revois, comme d'hier, le spectacle qui suivit, c'est-à-dire mon entrée au salon. La pose de M. Chambel l'a posée à la cheminée, et l'air absent avec lequel il m'accueillit. Je me rappelle aussi que, dès le premier instant, j'eus la certitude que M. Champel était là, non pour moi, mais pour la femme. À quelle cause attribuer une impression aussi précise? N'était-il pas clair que M. Champel avait parfaitement le droit de m'attendre ainsi, le chapeau sur la tête et sans ses gants beurre frais? D'ailleurs, dès que je parus, ne se découvrit-il pas avec empressement et en m'offrant par-dessus le marché son sourire le plus cordial? Cependant, je n'éprouvais aucun doute. Tant qu'il était resté seul, M. Champel avait dû écouter de toutes ses forces le bruit léger de vaisselle et de fourchette qui, moi présent, continuait de déceler à côté la présence de la femme. Maintenant que je lui demandais « Oh, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite imprévue ?» Ce n'était pas non plus ma question qu'il entendait, mais encore, derrière la porte, les pas de Lucie. Et sans doute se serait-il obstiné à les guetter si je m'étais décidé à élever la voix, répétant avec insistance « Mais qu'est-ce qui me vaut l'honneur ?» Il parut alors se reprendre et d'une voix un peu sourde « C'est ma femme qui m'envoie. Il nous paraissait convenable de vous demander tout de suite ce que pensait votre sœur du candidat que nous désirions tant lui présenter. » « Oh, cher monsieur, ce n'est pas urgent à ce degré. Si, si, urgent et important, de telles entrevues peuvent conduire si loin. » Le sourire installé sur les lèvres fardées s'amortit de lui-même. « Et voilà !» Puis M. Champel se tut. Je me tus également. Nous étions face à face, comme des gens qui n'ont déjà plus rien à se dire, et qui en même temps se sentent enlisés dans une aventure peu claire. Je repris « Oh, Madame Champel a eu tort de vous obliger à sortir par ce froid. Bon, rassurez-vous, nous avons pris une voiture, nous aussi. » Il dit « nous aussi » et je compris très bien que c'était pour m'avertir qu'il avait réellement surveillé notre départ, mais je me contentais de soupirer « Oh, affreux temps !» « Affreux, oui, » fit-il encore comme un écho. « Vous n'êtes pas glacé ? Non, merci. » Alors, voici que les mots tombaient de nouveau dans le vide. L'obligerait-il à fuir notre maison comme nous avions fui la sienne une heure auparavant ? Mais non, il s'asseyait au contraire, et d'un ton résolu, « Qu'avez-vous fait de ces gens ?» Enfin, l'essentiel, la seule raison qui l'eût amené, se découvrait. Je tendis la main vers la salle à manger. « Mais ils sont là, cela va de soi. » Crut-il que j'allais en même temps ouvrir la porte de communication, il se redressa, sans s'attarder à ses douleurs. « Ne les appelez pas. Vous ne tenez pas à les voir. » Il ne répondit pas. Toutefois, ayant tiré de sa poche un billet de banque qu'il avait dû préparer d'avance, « Ne pourriez-vous remettre ces malheureux ?» Je reculai abasourdi, il me tendait 1 000 francs. « Oh, je crains vraiment que ce soit trop. Non, 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 autant agir rarement. Eh bien, prenez donc. » Je repris, « Soit, mais venez dans ce cas les donner vous-même. » Le visage de M. Champel devint livide. Non, impossible, je désirerais garder l'anonyme. Mais cependant, si l'on trouve demain une pareille somme sur cette pauvresse, on s'enquerra de la provenance. Période plus simple, ce sera vous. Ben, on sait de reste que je ne puis faire pareille largesse. Alors? Alors, il n'y a pas de manière de s'en tirer. Sans hésiter, j'ouvris la porte. Mais à mon tour, j'éprouvai une stupeur. Autour de la table, il n'y avait plus personne. Lucie, qui revenait à ce moment de la cuisine, entendit à la fois mon exclamation et celle de M. Champel. « Où sort-il ? » Elle ne répondit que par un geste anéanti. Profitant de notre double absence, la femme et l'enfant avaient disparu. Est-ce disparu qu'il faut dire ? Tout de suite, j'eus la conviction qu'il s'agissait d'une fuite due précisément à l'arrivée de M. Champel. Je me retournai vers lui. Il se contentait de balbutier « Est-ce possible ?»« En tout cas, m'écriai-je, avec un mioche sur les bras, on ne va jamais ni très loin ni très vite. »« Tu as raison, dit Lucie, il faut les rejoindre. » Je courus à l'antichambre, décrochai mon chapeau. Je ne songeais déjà plus à M. Champel qui pourtant me suivait. « Ne pourrais-je aller avec vous ?» demanda-t-il d'une voix indistincte. Ce n'était plus le moment de résoudre les énigmes. Tout à l'heure, M. Champel ne se souciait pas de voir mes protégés, et maintenant, il avait envie de courir après eux. Oh, affaire à lui. L'essentiel était de ne pas retarder la poursuite décidée. « Soit, mais alors, passez vite !» Lucie était déjà sur le palier. Obéissant à l'injonction, M. Champel glissa devant moi comme une ombre. Je me retournai pour donner un tour de clé. J'allais fermer la porte. Et soudain, je m'arrêtai net. À la mi-hauteur de l'escalier, Mme Champel en personne venait de paraître. Qu'il ait suffi de son apparition pour couper l'élan de tous, voilà ce que je ne chercherai pas à expliquer. C'est un fait. On ignore d'ailleurs souvent la raison profonde des choses, mais il semble qu'il y ait, en dehors de la logique et par-delà un pouvoir de connaître chargé de nous avertir, que ces choses vont venir, qu'elles sont inévitables, et qu'on doit ouvrir les yeux pour les bien voir passer. Donc, tout d'un coup, parce que Mme Champel s'était montrée, Lucie et moi, oubliant la femme et le mioche, nous n'eûmes qu'une pensée, regarder. Nous regardions tour à tour M. et Mme Champel. En apparence, ils étaient les mêmes qu'auparavant. Cela seul était changé dans leur tenue, que l'une était coiffée d'une capote de velours et l'autre d'un haut de forme. Si le jour blafard qui tombait du vitrage accusait un peu trop la violence des peintures, malgré cela et sous leur carapace de couleur, les traits avaient toute liberté de changer sans que rien n'en parût. Ainsi, nous aurions dû les apercevoir pareils. Cependant, ceci nous aveuglait que le couple poli, onctueux, réchampi n'existait plus. Oui, sous les phares, on avait cette fois l'intuition de lèvres crispées, de faces blêmies. Les regards jetaient des flammes. Sans rien savoir avant même d'entendre, on respirait déjà la haine comme une odeur. Et voici, très exactement rapportées, les paroles qui suivirent. Au moment où j'écris, il me semble que le passé rejoint le présent. Madame Champel dit « Hector, qu'attendez-vous pour me rejoindre? Je suis las d'attendre. » Celui-ci répliqua « Savez-vous qu'elle s'est enfuie ?»« En effet, oui, j'ai cru l'avoir passée. Et vous l'avez pas arrêtée ?» Ici, les paupières de Madame Champel se levèrent, découvrant un iris métallique. « Ah, il n'y a plus trace de la vieille dame en sucre qui se chauffait au salon. »« Et pourquoi l'a arrêtée ? Ayant reçu son argent, elle aurait évidemment qu'à s'en aller. Mais de quel côté est-elle partie ?» Plus de réponse. De quel côté je veux la rejoindre, vous? Lucie intervient à ce moment. Madame, Si vous le savez, Madame Champel, toise ma sœur. Quoi, vous aussi, mademoiselle? Tant de soucis pour une femme dont vous ignorez si elle mérite seulement de la pitié. Mais une malheureuse, cela suffit. Puis un cri, non, plutôt un allaitement, comme si le mot, en s'échappant, déchirant la gorge de Mme Champel. Ma fille! Et la réplique dédaigneuse, aussi cinglante qu'un coup de fouet. Allons donc! Nous n'en avons jamais eu, que je sache. Ma fille! Continua de hurler M. Champel. Mais déjà Lucie a descendu les marches. Elle prend le bras de Madame Champel. « Quoi que ce soit, madame, je vous en supplie, renseignez-nous. L'enfant risque de mourir. Ou plutôt, faites mieux, venez avec moi. Nous gagnerons du temps. » Tandis que Lucie parle, une résolution soudaine apparaît dans les yeux de Madame Champel. « Après tout, mademoiselle, qui sait si vous n'avez pas raison ? Soit, allez, ma voiture est en bas, allons ensemble. » Et elle commence de descendre. Un nouveau cri. « Pas avec elle, elle cherchera qu'à vous égarer !» C'est M. Champel, penché par-dessus la rampe, qui jette cela. M. Champel, devenu la forme vivante de l'angoisse. « Pas avec elle, si elle pouvait !» Soudain, la phrase s'arrête. Un corps chavire. Je n'ai que le temps de recueillir dans mes bras M. Champel évanoui. Comment suis-je revenu au salon avec mon fardeau? Je l'ignore. Je revois M. Champel écroulé sur le canapé, sanglotant, étouffant, cependant que Lucie a dû partir pour ses recherches. Est-elle ou non avec Madame Champel? En tout cas, le palier est désert, il n'y a aucun bruit dans l'escalier. Je ne songe pas non plus à rejoindre la femme ni personne. Je me contente d'être là, près d'un vieillard qui pleure, et de prononcer au hasard des paroles vagues comme on fait pour apaiser un enfant. Allons de grâce, fiez-vous à ma sœur. Avec ma sœur, je suis sûr que tout ira. Ma sœur ne peut pas ne pas vous la ramener. » Un assez long intervalle s'écoula avant que nous reprissions l'un et l'autre un peu de calme. M. Champel continuait de pleurer. Dans son émoi, il avait oublié de tirer son mouchoir et se frottait les joues contre la tétière du canapé. Avec chaque larme, un peu de fard disparaissait, et l'on avait ainsi l'impression que, de minute en minute, la jeunesse factice du malheureux s'en allait au ruisseau. Mettant dans mon accent une compassion que j'éprouvais d'ailleurs, je repris. Mais comment se peut-il que, vous vivant, cette personne en soit arrivée à un tel état de misère? Il fit un geste désespéré. Je m'assis à côté de lui, je saisis ses mains. Calmez-vous, nous perdons du temps. Il faudrait mieux me mettre au courant. Il revint ses paupières fripées et entre deux hoquets. À quoi bon? Mais à vous aider peut-être. Il m'écoutait de l'air d'un homme qui ne comprend pas. Impossible, murmura-t-il, impossible. Je tenais toujours ses mains émues de pitié. Mon désir de le réconforter en l'obligeant à vider son cœur excusait mon insistance. « Mais encore une fois, m'écriai-je, il s'agit de sauver votre fille, dominer votre pudeur. Imaginez que vous êtes auprès d'un confesseur et assuré du même secret. » Il acquiesça, enfin, découragé. « Alors, faites comme lui, interrogez. » L'interroger, mais sur quoi? Par où commencer? « Non, répliquai-je, mes questions iraient trop au hasard. Si vous tenez à ce que je vous sois utile, ne gâchons pas les instants. On peut revenir d'un moment à l'autre. » La pensée du retour de sa fille lui donna un sursaut. Qu'elle lui causa de la joie ou de la crainte, peu importe. Elle seule, en tout cas, semblait capable de rendre une apparence de vie à la loque humaine qu'il était devenu.
Soit, essayons.
Et il commença le récit qui suit. Le début en fut prononcé d'une voix lointaine, impersonnelle. On aurait cru qu'il récitait une leçon. Peu à peu, toutefois, il allait se prendre lui-même au passé qu'il évoquait.
Vers la fin de ma jeunesse, j'ai rencontré à Paris une femme qui n'était en somme ni meilleure ni pire que beaucoup d'autres réputées honnêtes. Je devais retourner prochainement en province pour y acheter une étude. J'étais muni d'un peu d'argent. La femme se trouvait libre et désirable. Nous nous installâmes donc en ménage, tels des voyageurs que le hasard déplace à rapprocher et qui profitent d'autant mieux de leur réunion qu'ils sont certains de se séparer à l'arrivée. Puis, l'heure venue de rentrer chacun chez soi, nous nous quittâmes en bons camarades, reconnaissants et résignés à s'oublier. Nous avions passé ensemble des semaines charmantes. Nous n'étions rien promis, d'un côté comme de l'autre, de l'amertume aurait inutilement gâté les adieux. Mais bientôt, après, un bruit laconique m'apprenait que la femme était enceinte. 7 mois plus tard, elle mettait au monde une fille et en mourait. Qu'auriez-vous décidé à ma place? J'allais chercher l'enfant, elle ramenait chez moi. Après tout, si j'étais pas très sûr qu'il fût de moi, j'aurais pu placer plus mal ma charité. Si bien que je m'installais dans mon étude avec un mioche. À 25 ans, on voit l'existence en beau. L'idée qu'il pût gâter mon mariage et troubler ma vie ne m'effleura même pas. Vous voyez que jusqu'ici l'aventure est pas extraordinaire. Un sourire effleura la bouche douloureuse de M. Chamel. Ce qui suivit n'eut rien non plus d'extraordinaire. Embarrassé d'un morceau de chair uniquement occupé à salir des linges ou à hurler, je m'en souciais bien entendu le moins possible. Je bornais mes ambitions à l'ignorer, tout en payant la nourrice. Malheureusement, j'avais eu beau délimiter nos royaumes, les frontières n'existent pas pour une petite tête qui prétend agir à sa guise. Bientôt, à propos de tout, et même hors de propos, je me heurtais à lui. C'était des histoires de dents, des incidents de toilette. Ses moindres gestes devenaient une nouvelle importante. Quand il fit ses premiers pas, ce fut un événement. Bref, si calfeutré que je parusse dans mon indépendance, je fus accaparé par force. Un beau matin, je trouvais naturel d'aller à la mairie et d'en revenir muni cette fois d'une paternité en règle. L'aventure m'avait pris au piège et, chose curieuse, je n'en éprouvais aucun regret. 4 ans plus tard, je me mariais. Ma femme avait consenti d'avance à la situation et offert de traiter Henriette comme sa fille. Je n'y vis rien que de naturel. Quand on aime, on trouve naturel tous les sacrifices qui facilitent le bonheur auquel on aspire. Et nous voici à dater de là 3 au logis, 3 qui n'avions qu'à agiter les doigts, semblait-il, pour pétrir du bonheur. Ah, ce qu'il a de un. Ici, M. Champel, commençant de quitter son air absent, se tourna vers moi et s'interrompit. Auparavant, que je vous dise qui était ma femme. Quand je l'épousais, elle avait une tenue de pensionnaire timide, l'air d'une plante verte qui ne saurait vivre sans s'accrocher à une branche forte. Très riche, oh, évidemment, trop riche pour moi. Cependant, je n'y pensais pas. Un coup de passion nous jetait l'un vers l'autre. De même qu'il amenait ma femme à penser sur l'existence d'Henriette, moi, il me rendait aveugle. Qui l'aperçoit aujourd'hui ne peut pas soupçonner ce qu'elle était à ce moment. La candeur de son regard, le sourire ingénu de ses lèvres, la douceur de sa voix. Elle parlait comme on chante. Il ne venait pas à l'idée qu'elle pût avoir une volonté personnelle. J'avais toujours envie de la traiter comme un enfant assez sage, pour se dispenser de caprices, pas assez pour s'intéresser à autre chose qu'à des riens.
Oh, à mon heureuse surprise, il se trouva que l'enfant était par-dessus le marché une ménagère parfaite, que ne prononçait aucune parole qui ne fût raisonnable, enfin, que sans élever le ton, et même en se taisant, elle dirigeait un miracle ce dont elle s'occupait, et semblait ne s'occuper que de ce qu'on lui confiait. Comprenez alors l'influence qu'elle prit sur moi. J'avais pas seulement pour raison que je l'aimais, mais j'avais toutes celles qui résultent d'apparences souverainement équilibrées et toujours justes. Et placez maintenant en face de ces apparences, j'insiste sur le mot apparence, une gamine indisciplinée, à l'imagination vive, sans cesse en révolte, parce que la révolte lui est venue dans le sang, et cherchez si je pouvais agir plus sagement qu'en disant à ma femme « Je t'en remets la direction, façonne-la, si tu le peux, à ton image. » À ma place, n'importe qui aurait agi de même. Rappelez-vous aussi dans quelles conditions incertaines j'avais recueilli Henriette chez moi, qu'après tout, je m'y étais attaché plus par habitude que par instinct, et vous ne vous étonnerez pas, haute mesure, que de nouveau, à dater de mon mariage, je m'en sois presque désintéressé. Mon affection, sans tendresse véritable, était d'ailleurs mal récompensée. Avec le cours du temps, on eût dit qu'une barrière s'élevait entre nous, toujours plus haute et faite d'incompréhension mutuelle et spontanée. Peut-être y avait-il également trop de questions que je ne pouvais répondre, et qu'Henriette posait avec d'autant plus d'insistance qu'elle en devinait le contre-coup irritant dans mon ménage. Tout cela, je le sens, est difficile à rendre. Les mots grossissent trop les nuances. Ce que j'exprime existait bien, mais à l'état insaisissable. Personne ne le soupçonnait, pas même moi. Pour le monde, au contraire, nous formions le ménage type. Il n'était pas jusqu'à la présence d'Henriette à mon foyer qu'il fût accepté parce que nous n'avions pas eu d'enfant. Le scandale du début était mieux qu'oublié. Il avait presque tourné à notre honneur. 16 années passèrent ainsi, très simples, dépourvues d'incidents. La maison, telle une machine bien huilée, tournait sans bruit. De même que toutes choses y étaient à leur place, nous y paraissions à la nôtre. J'adorais ma femme semblait aimer Henriette. J'avais lieu de croire qu'Henriette lui rendait, et le temps s'écoulait, sans rien laisser pressentir de ce qu'il préparait. Ah, l'on ne soupçonne pas l'abîme qui sépare 3 êtres sous un toit. On ne se quitte pas, on ne cesse de s'interroger, et les pensées vous échappent, les trémentent, les paroles dissimulent, chacun est dupe de l'autre et tous s'ignorent. L'enfer était chez moi. J'en étais encore à somnoler dans l'apparence d'un paradis. Horrible le réveil qui survint. La date, vous le supposez bien, est restée gravée, là, 26 octobre. C'était le matin. Descendu pour le premier déjeuner, nous attendions Henriette. Je vois encore un homme chauffer à l'instant devant la cheminée, tandis que ma femme chargeait la domestique de prévenir ma fille qu'elle est en retard. Et tout à coup, la domestique survient. « Mademoiselle n'est pas dans sa chambre. »« Avez-vous passé au jardin ?» interroge ma femme. Moi, pendant ce temps, j'examine la domestique avec détachement et j'attends la réponse comme si cela ne me concernait pas. « C'est que mademoiselle n'a pas dû coucher ici, le lit n'est pas défait. » Vous dites ? Ma femme s'est levée, vient à moi, qui paraît toujours ne pas comprendre. Elle me secoue le bras. Hector, entends-tu ? Or, seulement le nuage se déchire. Un éclair fulgure et me fait tressaillir jusqu'au moelle. Henriette partie, mais pour quelle raison ? Des yeux, j'interroge ma femme. À sa pâleur, je vois qu'elle aussi, avant moi, a deviné qu'un nouveau scandale, 1000 fois pire que le premier, s'abat sur la maison. et nous voilà gravissant l'escalier, les jambes molles pareilles à des ivrognes. Nous arrivons dans la chambre, tout y est intact et en ordre. Les meubles ont l'air placides, le lit un aspect virginal. Cependant, tout crie que ma fille s'est enfuie. À cette vue, ma gorge se desserre. Je parviens à prononcer. N'aurait-elle pas au moins laissé un mot ou quelque chose? Évidemment, elle aurait dû. Aussitôt, nos mains bouleversent la table. Ma femme cherche avec la même ardeur que moi. Nous avons l'air de chiens acharnés sur une piste. Et tandis que nous faisons cela, j'ai l'impression qu'alentour les murs se sont mis à osciller comme des branches. Le parquet va et vient. L'univers entier participe à mon ivresse. Enfin paraît une enveloppe. Je m'en saisis. Une minute au moins, oh, un siècle est nécessaire pour en arracher le contenu, et je lis. Je pars avec celui que j'aime. Oubliez-moi comme j'oublie. C'est tout. Pas un regret. Presque un reproche. Aurais-je mal vu? Alors je m'obstine à relire, et à mesure, j'éprouve un déchirement jamais ressenti. Il me semble qu'un désastre s'est abattu sur mes épaules, que des années se sont écoulées en une seconde. Et bêtement, je me mets à pleurer. Ma femme m'ouvre ses bras. C'est pas ta faute, il fallait s'y attendre. Elle pleure avec moi, ou du moins je l'imagine. Mais tandis qu'à travers mes larmes, je lève mes yeux pour la remercier, j'ai l'intuition qu'un sourire vient d'effleurer sa bouche. Soulagement, ironie, allégresse, compassion, est-ce qu'on sait? En tout cas, j'ai vu cela, je le jure. Oui, j'ai bien vu, je ne me trompe pas. Et ce sourire-là, monsieur, en un tel moment, c'était l'avenir déjà, peut-être aussi le passé. Nous commencions.